Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Vous qui nous suivez régulièrement dans Priorité Santé, vous en êtes conscients. Les violences faites aux femmes, ces violences basées sur le genre, ont de profondes, de multiples et potentiellement sévères conséquences sur la santé des filles, des sœurs, des mères et des grands-mères. Aujourd'hui, alors que nous sommes en Côte d'Ivoire pour une deuxième émission, nous allons faire de nouvelles rencontres avec des acteurs engagés pour que les choses changent, aussi bien du point de vue des pratiques que des mentalités. Actions de sensibilisation et de prise en charge, nous en aurons encore une fois l'illustration. Elle repose sur l'expertise, bien sûr, des soignants et des femmes, mais pas seulement. Et le mouvement He for She, lui pour elle, dont nous parlons aujourd'hui, en est l'illustration. Une campagne lancée il y a près de 10 ans par ONU Femmes, des garçons, des jeunes gens, des hommes engagés pour diffuser les messages, communiquer, intervenir. Car si la sororité, cette solidarité féminine porteuse de force, est aujourd'hui un moteur des droits des femmes, eh bien en s'engageant pour elles, ces garçons atteignent d'autres publics pour déconstruire les stéréotypes, pour que tous s'approprient les enjeux de cette lutte pour les droits, faire prendre conscience, transformer les comportements pour être ensemble, pour lutter pour l'égalité et la santé. Promotion de l'égalité, des campagnes E4She, hommes solidaires pour améliorer la santé des femmes et des filles. Émission en partenariat avec le Fonds français Muskoka qui mobilise les expertises des agences des Nations Unies, OMS, ONU Femmes, UNFPA et UNICEF pour renforcer les systèmes de santé. Quatre invités avec nous ici dans les locaux d'ONU Femmes à Abidjan, que l'on remercie pour son accueil. Docteur Kwadjo Komiao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien à la nouvelle clinique santé Diane d'Abidjan et ancien directeur et chef de service de gynécologie à l'hôpital de la police. Diane Ninteretse Gakouba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue dans le secteur libéral et formatrice en santé mentale. Eva-Elena Amegbo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du collectif des activistes de Côte d'Ivoire et consultante sur les violences basées sur le genre. Et l'on vous retrouve, Ernest Adou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste gestionnaire de projets au sein d'une plateforme d'association, la POJAF-CI, qui défend le leadership des femmes. Et on va vous retrouver tout à l'heure avec un groupe de militants réunis pour une table ronde. On échangera ensemble.
RFI à Abidjan 97.6 FM.
Jeunes engagés pour la santé des filles et des femmes.
On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Eva-Elena Amegbo. Engagement qui prend de multiples formes dans le cadre de cette lutte contre les violences basées sur le genre. Alors il y a le plaidoyer, il y a des recours, on essaye de mobiliser, on essaye d'alerter. Comment cette action générale, elle s'accorde avec la campagne de ces acteurs au masculin, He for She, lui pour elle?
Le collectif des activistes de Côte d'Ivoire a été créé en 2020 à la suite de la campagne des 7 jours d'activisme. Et déjà à la base, on avait parmi les organisations membres du collectif des He for She, notamment le réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. On a Fusiolink comme organisation, Citroteur aussi. Pour toutes les actions que nous menons au sein du collectif des activistes, nous travaillons avec des He for She. Il y a certains hommes aujourd'hui qui ont compris le sens de la masculinité positive.
Ce terme de masculinité positive, quand on l'entend ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas un petit peu l'impression que c'est un concept importé d'Europe et que finalement ça ne concerne pas les hommes d'ici?
Malheureusement, oui, c'est un stéréotype qu'on essaye de déconstruire. Nous, dans la communauté, notamment avec Citroteur, on organise des groupes de parole pour permettre aux hommes et aux femmes de se retrouver dans des espaces sécurisés et simples pour parler de tout ce qu'ils rencontrent. Mais je ne vous cache pas que les hommes, pour se livrer, c'est difficile.
Quand vous parlez de violences basées sur le genre, ici en Côte d'Ivoire, on parle de quoi exactement?
Quand on parle de violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, on parle de 6 types de violences. Le viol, les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques et les cas de MGF,
mutilation
génitale féminine et pratiques néfastes.
Ce qu'on dit généralement l'excision, hein, pour parler simplement des choses. Docteur Comiao, précisément, conséquences, vous êtes gynécologue obstétricien, je me tourne vers le spécialiste, conséquences pour la santé des femmes de ces violences basées sur le genre, pour la naissance, pour la sexualité, pour la santé des femmes. Qu'est-ce que l'on peut dire ?
La conséquence sur les femmes, c'est de très graves conséquences. Sur la sexualité, nous savons tous que le clitoris, c'est l'organe sexuel par excellence. Une fois qu'on l'a amputé, par exemple, au niveau de l'excision, là, il y a une baisse de la libido, une baisse de la sensibilité sexuelle. Il peut avoir des conséquences également sur la naissance, des conséquences obstétricales. La vulve est naturellement souple. Une fois qu'il y a une cicatrice, là, la vulve devient très dure et ça rend très difficile les naissances. À la naissance, on a des hémorragies, on peut même aller jusqu'à avoir des fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales. Au niveau des enfants qui naissent, étant donné que la vulve est rétrécie, il faut sortir très facilement l'enfant, alors on est amené à faire des larges épisiotomies, encore quand l'enfant peut sortir. Sinon, ça augmente le nombre de césariennes. Il faut dire aussi que très souvent, les femmes arrivent en retard à l'hôpital où on peut faire une césarienne et qu'il y a eu une naissance normale. Les enfants naissent avec des frottements durs et là, on a beaucoup de souffrances fœtales avec des retards scolaires à la longue. On ampute toujours à la grand-mère qui est au village, qui est sorcière, alors que le vrai problème, c'est au niveau de la naissance.
Au niveau de la naissance, il y a aussi les conséquences des viols, des agressions sexuelles. Est-ce que le public fait le lien, par exemple, entre les deux ? Je veux dire par là, les séquelles d'un avortement clandestin, parce que ça peut arriver après une grossesse issue d'un viol, pour une jeune fille, et le viol. Est-ce que finalement, les gens disent « la fille a dû avorter » et on occulte ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire le viol, la culpabilité, la responsabilité est portée sur la jeune fille et non pas sur l'homme qui ne l'a pas respectée et même qui l'a agressée et violée.
Oui, effectivement, c'est ce qui arrive très souvent. La fille a été violée et lorsque elle va faire un avortement, c'est elle qu'on accuse. Et la plupart du temps, les viols se font au niveau de la communauté. Parfois, il est difficile d'indexer, de condamner celui qui a violé. Dans l'exercice de ma fonction, il est arrivé que de petites filles soient violées, 9 ans, 12 ans, par un membre de la communauté. Et la maman qui m'a envoyé les enfants, je lui ai demandé si elle allait porter plainte. Elle dit, mais c'est leur oncle qui l'a fait, donc je ne peux pas porter plainte. Et les enfants qui ont été violés sont traumatisés à jamais. Et ça va avoir des répercussions dans leur vie sexuelle plus tard.
Une question de droit, tout simplement. Ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un droit à l'avortement pour les filles ou les femmes victimes d'un viol et il y a une grossesse ensuite? Est-ce qu'il y a le droit d'avorter pour ces femmes?
Lorsque une fille a été victime d'un viol, ce droit, il existe en Côte d'Ivoire. Oui.
Ernest Adou, vous avez déjà vous rencontré des camarades qui avaient été victimes de violences sexuelles et qui avaient des conséquences en termes de santé, voire même des grossesses issues de ces viols?
Oui, je prends le cas d'une amie. Elle a été victime d'un viol. C'est un cousin qui l'a violée. Malheureusement, en accouchant, parce qu'elle est tombée enceinte par la suite, en accouchant, les choses se sont passées mal et elle est décédée. Elle est décédée, on l'a appris après par le cousin lui-même qui, au funérail, a fait s'est confessé.
Ce sont ce genre de cas absolument dramatiques qui motivent, par exemple, l'engagement dans Iforchi d'un garçon comme vous?
Oui. Mais dans mon cas particulièrement, je me suis engagé parce que j'ai grandi dans une famille où on considérait l'homme et la femme sur le même point d'égalité. Et quand j'ai commencé à travailler dans les organisations, je me suis rendu compte au vu de certains rapports que ce que j'ai appris dès le bas âge là n'était pas mis en pratique là-bas.
Vous aviez envie d'exporter votre chance?
Effectivement.
Diane Giacuba, on entend déjà d'emblée, ça commence avec des choses extrêmement difficiles. On peut imaginer l'impact psychologique. Dans ce genre de cas, il y a urgence en termes de santé mentale.
Si elle reste sans soins, elle risque de développer des maladies, la dépression, des troubles d'anxiété. Elle peut souffrir du stress post-traumatique. Et justement, c'est pour cela qu'il faut sensibiliser, parce qu'en fait, leur quotidien va être affecté négativement. Et une bonne santé mentale, c'est d'abord être capable de fonctionner dans la vie de tous les jours, savoir gérer ses émotions. Donc si vraiment elle souffre, elle a été violée, elle ne pourra pas exprimer, gérer ses émotions et faire partie de la communauté.
Ce tabou de la santé mentale, ça veut dire qu'on pense parfois, forcément à tort, que la santé mentale, une psychiatre ou une psychologue, c'est réservé pour les fous. Ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à celles et ceux qui nous écoutent pour faire comprendre que quand on a subi dans sa chair, dans son corps, une violence, ça peut soulager? Parce que beaucoup se disent « Oh, tout ça, c'est du blabla, c'est du blabla, ça ne sert à rien ». Non, c'est pas vrai. Et pourquoi ça marche?
Se confier à un professionnel de la santé mentale est très très important parce que cette personne, elle va utiliser des méthodes, des techniques thérapeutiques adaptées à votre cas. Tandis que lorsque vous gardez cela pour vous-même, vous développez des maladies, mais aussi il y a des personnes qui préfèrent se confier à des membres de la famille, à des amis, à des guides religieux qui vont leur donner des conseils d'une manière générale. Alors que pour ce genre de cas, chaque personne est unique et on ne peut pas conseiller deux personnes qui ont subi les mêmes violences de la même manière. Mais bien sûr, toujours dans la confidentialité, il faut toujours que ces personnes trouvent un environnement qui leur inspire la confiance.
La confiance, c'est un mot clé. Ernest Adou, E4She, votre engagement, l'appui des garçons auprès des filles, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous n'êtes pas encore là pour parler à leur place? Question de provocation, hein, parce que je ne pense pas ça du tout. Mais est-ce que vous n'êtes pas encore là, une fois de plus, pour parler à leur place?
Pas du tout. Moi, particulièrement, je ne suis pas là pour parler au nom des filles. Ce que je fais dans le cadre de mes activités, c'est de les amener elles-mêmes à pouvoir prendre la parole. Sur le terrain, c'est vraiment difficile d'emmener les gens vers ces spécialistes-là parce que ça ne fait pas partie de leur culture, ça ne fait pas partie de leur manière de fonctionner. Et ce qu'on fait, c'est de créer des espaces sûrs. Et dans ces espaces sûrs, on met les filles en contact avec des femmes qui sont un peu comme des mentors. Et ces femmes-là essaient de discuter avec les bénéficiaires de nos activités de sorte à pouvoir les amener à se libérer. Vous avez une activité où souvent on pleure un peu parce qu'on vient d'écouter une situation vraiment difficile. Toutes les femmes qui sont là sont en train de pleurer. Et après, la mentor se retire avec la bénéficiaire ou la survivante pour essayer de lui parler. Et même quand l'action a eu lieu depuis un an, deux ans, on demande toujours si elle veut qu'il y ait un retour au niveau des autorités pour pouvoir demander justice, parce que souvent elles vivent avec le bourreau et ça les fatigue à chaque fois qu'elles voient ces personnes, bon, qui souvent les narguent aussi, qui les effraient, c'est difficile.
Et donc, c'est important de le dire, on peut porter plainte des années après. Hein.
Oui.
Un travail avec les femmes, y compris plusieurs années après la confrontation, après le traumatisme. Docteur Combe, c'est aussi quelque chose que vous voyez dans votre pratique de gynécologue.
Effectivement, j'ai croise souvent des femmes qui ont été excisées. Cela remonte à peut-être 10 ans, 20 ans. Et lorsqu'elles arrivent, vous leur posez la question, elles vont vous expliquer les choses en détail. Et elles finissent toujours par maudire leurs parents qui l'ont fait. Et j'essaie de leur faire comprendre que, écoutez, les parents ne vont pas aller vous faire du mal expressément. C'est parce qu'ils pensent que c'est bien qu'on vous envoie. Et tu sens qu'elles sont marquées sur le plan psychologique. Ce qui fait que dans la prise en charge, on a toujours besoin d'un psychologue pour leur parler.
Tout à l'heure, Ernest, vous nous avez expliqué ce rôle de médiateur. On va retrouver plusieurs de vos camarades qui vont répondre à cette même question sur le sens de leur engagement. On va vous retrouver donc, vous Ernest, Ange Brou, qui a 40 ans, qui est chargé de programme dans une organisation qui défend la place des femmes, la POJAF CI. Serge Monet, 42 ans, de la Confédération des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Il est lui-même porteur de handicap. Et puis, Eddy Bago, 25 ans, juriste et président de l'association FusioLink. C'est Eddy, justement, qui commence. Et c'est notre palabre au masculin.
J'aime les défis, mais parce que aussi je suis quelqu'un qui est entouré que de femmes. J'ai que des sœurs et j'ai vécu avec ma maman. De base, je suis quelqu'un qui a des principes qui, si vous voulez, valorisent, mettent à l'honneur les femmes.
Ange, vous aussi, c'est une raison familiale ou pas vraiment?
On va dire exactement parce que j'ai été élevé par ma mère. J'ai appris tout d'elle. Malheureusement, elle ne vit plus, mais j'ai compris combien de fois sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Elle est partie, elle m'a laissé mon petit frère et ma petite sœur, dont je m'en occupe, comme un père et une mère à la fois, puisque mon père n'étant plus également. Donc, du coup, maman nous a appris même à faire la vaisselle.
C'est pas facile d'être une femme?
Non, c'est pas facile, mais c'est en même temps passionnant de savoir gérer une maison, de parler avec les hommes, de parler avec tout le monde.
Serge, comment est-ce que vous définiriez Iforchi? C'est quoi Iforchi?
Iforchi, pour moi, c'est un mouvement qui essaie de mettre tout le monde au même pied d'égalité.
C'est quoi être différent?
Être différent, c'est ne pas être vu de la même manière. Et les inégalités sociales, là, défavorisent la plupart des personnes en situation de handicap parce que les personnes handicapées ne sont pas forcément vues de la même manière dans nos sociétés.
Ernest Adou, c'est quoi pour vous la définition de Iforchi?
Pour moi, Iforchi, déjà, c'est un slogan qui traduit l'engagement des jeunes garçons ou des hommes à la cause de la femme.
Dans votre vie, dans votre parcours, à quel type de violence basée sur le genre avez-vous été confronté, Eddie?
Disons que j'ai vu ma mère et mon père se bagarrer à plusieurs reprises à coups de poing déjà dans un premier temps. Et puis la deuxième expérience qui est un peu tout proche, c'est un jour j'étais sur le balcon à la maison et j'ai vu un monsieur en train de violenter sa petite amie. Bon, je suis descendu sur le coup pour essayer de voir ce qui se passait. Et quand je suis arrivé, je me suis interposé et j'ai demandé au monsieur de ne pas porter main à sa petite amie devant tout le monde. Donc qu'il essaie de régler ça à l'amiable aussi possible, qu'il la laisse entrer et puis qu'ils échangent après. Et je me rappelle qu'il y a mon cousin qui a crié sur le balcon pour dire « Est-ce que tu as vu la personne devant qui tu as arrêté ?» Et en vrai, il était vraiment baraqué. Je me suis dit « Attends, mais j'ai pas vraiment regardé contre qui je suis venu parler. » Et puis genre, je me suis interposé et s'il m'avait tapé, j'allais dire quoi ?
Ange, vous avez un exemple?
En fait, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est une violence économique, un déni de ressources. En fait, c'est dans mon village, bien évidemment. Cette dame-là qui est à côté de son homme, ils font des activités champêtres. Au moment de la récolte, son mari s'est permis donc de prendre toute la somme gagnée et s'est rendu en ville, fait la fête pendant plus d'un mois et il est revenu quand il n'avait plus rien. Et moi, quand j'ai été informé de cette situation, j'ai été vraiment choqué au point où on s'est cotisé entre nous amis pour donner un peu d'argent à cette dame-là. Mais aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'elle n'est plus avec son mari, elle a divorcé.
Ernest Adou?
Dans mon cas, il s'agit d'une violence physique. En 2013, je venais d'avoir mon bac et je suis allé voir une tante. Et nous étions en train d'échanger quand elle m'a dit que sa bouteille de gaz est vide et qu'elle voudrait que je parte la charger. Donc j'ai pris la bouteille et en allant, il y avait un podium, une ambiance dans le quartier. Donc j'ai marqué juste un temps pour regarder les danseurs et tout ça. Et quand je suis revenu avec la bouteille de gaz, j'étais pratiquement 10h30, 11h moins pas là. Elle a commencé à préparer. Quand son mari est venu aux environs de midi, midi 30 avec des amis, que le repas n'était pas encore prêt, il s'est jeté sur sa femme, commencé à le battre devant tout le monde. J'étais effrayé parce que c'était une première. Bon, moi, j'ai couru tout de suite, je suis sorti de la maison. Je suis allé appeler des gens dehors. On m'a dit non, il y a des garçons là-bas, on ne peut pas interférer et tout ça. Je me suis dit que c'était à cause de moi que cette femme avait été battue. Ça m'a vraiment marqué, mais heureusement, la femme, après les soins à l'hôpital, tout s'est bien passé. La situation a été réglée à l'amiable.
Serge, un exemple.
Il y a tellement d'exemples, mais je veux parler de la dame en situation de handicap qui a été abattue par l'homme qui l'a mise enceinte à Daloa en 2019. L'homme de presque 60 ans entretenait une relation amoureuse avec la dame qui est en situation de handicap et s'en est suivi une grossesse. La dame était victime de moqueries dans le village, comme si elle n'avait pas droit à l'amour. Et ce monsieur-là qui participait justement à entretenir cette moquerie-là. Et voyant la grossesse évoluer, il s'est rendu compte que finalement la dame allait le dénoncer. Et il a abattu froidement.
Il a été condamné pour ses actes?
Effectivement, il a été condamné.
Eva Elena Amegbo, ces garçons qui s'engagent, comment est-ce que vous percevez leur action, leur vision? On vient d'entendre justement ce qui les a poussés vers cet activisme, ce militantisme. Vous en pensez quoi?
Pour moi, c'est une fierté, surtout Eddie Bagot qui a raconté l'histoire. C'est exactement à la suite de cette histoire qu'il s'est engagé avec nous dans le collectif des activistes. Pour le festival Les Monstrues Libres, on a eu la question d'un jeune homme qui pensait qu'une femme en situation d'handicap avait sa période de menstruation différente d'une femme qui n'est pas en situation d'handicap.
Mais quand je vous entends, excusez-moi de vous interrompre, vous intégrez les menstruations dans les violences basées sur le genre. Alors on peut se dire pourquoi?
La dignité de la femme, c'est ça qu'on met en avant. Et on estime qu'aujourd'hui, pour parler d'hygiène menstruelle, on a des femmes, on a des activistes avec nous dans le collectif qui ont su comment placer une serviette hygiénique par leur père.
Ça veut dire que, y compris l'anatomie, la santé, le corps des femmes, ça fait l'objet de discrimination.
Bien sûr.
Et c'est ce que vous voyez dans votre pratique aussi, comme Quadio, informer, en fait, sensibiliser simplement sur l'anatomie, c'est aussi une forme de lutte contre certaines dérives par rapport aux femmes.
Oui, effectivement, la lutte contre les violences basées sur le genre, ce n'est pas une affaire de femmes. Moi, je pense qu'au prime abord, c'est une affaire d'hommes. Parce que j'ai donné des cours à des étudiants où je parlais, par exemple, des violences, de l'excision, mais j'ai invité leur mari à être là. C'est lorsque l'homme sait le dégât qu'il peut commettre en posant certains actes qu'il va les éviter. Donc, c'est d'abord et avant tout un problème d'hommes. C'est eux qui entraînent la violence, c'est eux qui doivent se retenir.
En termes de responsabilité. Oui. Eva Elena Amegbo, je reviens vers vous. Ces violences basées sur le genre, on a eu diverses illustrations, parfois absolument terribles tout à l'heure. On comprend que ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher aussi tous les âges.
Bien sûr. Et je tenais à rappeler que selon les statistiques de l'annuaire du MFFE 2023, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, c'est près de 3 cas de viol sur des enfants qui sont pris en charge par jour. C'est horrible. On a besoin forcément de leaders, de modèles dans la communauté pour faire comprendre aux hommes, aux jeunes garçons, que la masculinité positive s'impose en fait en 2024. Il faut avoir une totale conception de...
Mais là, on n'est plus dans la masculinité positive, on est dans le crime. Hein.
C'est ça, et c'est pour ça qu'on félicite les Reforchis qui font partie de nos communautés, parce que avec le réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres, ils ont eu l'idée d'avoir des Reforchis, des clubs Reforchis dans des écoles. Ils ont débuté cette année. Vous avez l'initiative des écoles de mari, des écoles de futurs maris. Nous, on va mettre en place des groupes de parole uniquement pour les hommes. Dévoiler les vulnérabilités masculines. Mais comme je vous disais précédemment, on peine. Parce que les hommes, ils se disent, je me présente comme quelqu'un de vulnérable. En Afrique, tu es l'homme, tu es fort, tu ne montres pas tes faiblesses. Personnellement, pour moi, je dirais que notre engagement est en train de prendre. La communauté commence à comprendre, les hommes s'engagent avec nous, donc pour nous, c'est
une fierté. La prise de conscience sur les violences conjugales, par exemple, pour vous aujourd'hui, c'est une réalité. Est-ce que quand on va dans un foyer, on va dire moyen en Côte d'Ivoire, l'homme a admis que la violence à l'encontre de sa femme quand il est mécontent, c'est quelque chose qui est interdit, répréhensible et d'ailleurs puni par la loi. Est-ce que c'est rentré ça dans les esprits ou pas ?
Moi, je dirais oui et non. Pour nous qui menons la campagne des 16 jours d'activisme depuis 2018, je vous dirais qu'en 2018, c'était rare en communauté pour des citoyens de comprendre même l'acronyme VBG.
Violence basée sur le
genre. Ils n'arrivaient pas. Aujourd'hui, ils comprennent. Aujourd'hui, on utilise le violentomètre qui a même été adapté en Nouchi, le jargon d'ici, par l'ONG Akwa Bamousso. Et ce violentomètre nous permet en communauté de pouvoir faire comprendre à une femme qu'une gifle, c'est une violence. Qu'un partenaire qui est jaloux, qui t'impose de faire une vidéo par WhatsApp pour voir où tu es, ce que tu fais, c'est une violence. Donc pour moi, à mon niveau, oui, ça change. Malheureusement, il y a toujours les valeurs socio-culturelles, le poids de la religion dans notre culture qui fait que certains sont réticents. Mais aujourd'hui, ils savent. Le 1308, ils connaissent.
C'est un numéro d'appel en cas de violence.
En cas de violence, effectivement. Les cliniques juridiques par l'Association des femmes juristes. Moi, j'étais notamment à l'intérieur du pays, à Mans, l'année dernière. J'ai été impressionnée parce qu'une petite fille de 9 ans a menacé un monsieur qui l'a dragué dans la rue. Elle lui a dit, mais si tu n'arrêtes pas, je donne ton nom à la clinique juridique. Ça fait plaisir quand tu es activiste ou quand tu es engagé sur les questions de VPG. La communication passe. Le changement, on le verra peut-être dans 5 ans, dans 4 ans, mais je pense qu'on est en train de semer.
Diane Gakouba, c'est important pour vous cette alliance homme-femme pour qu'il y ait un accélérateur de changement ?
Oui, absolument. Parce que déjà, les luttes contre les violences basées sur le genre doivent commencer par un changement de mentalité. L'éducation commence à la maison, comme je le dis toujours. Un petit garçon va souvent dupliquer les mêmes comportements qu'il a vus plus ou moins à la maison. Donc si on commence par sensibiliser les hommes, à les emmener à joindre cette cause, les femmes seront encore plus fortes avec les hommes à côté.
Docteur Komiao, bien sûr, on comprend qu'il faille changer les choses, mais aussi peut-être tout de suite, d'abord, améliorer les prises en charge. Vous avez parlé tout à l'heure d'une approche globale, psy-gynéco par exemple. Est-ce que c'est aujourd'hui une réalité ou est-ce que c'est aujourd'hui un vœu ?
L'approche psy-gynéco, c'est une réalité.
Pourtant, quand on interroge les gens, même quand les auditeurs appellent priorité santé, dans la plupart des cas, ils disent « j'ai beaucoup de mal à trouver un psy » et en tout cas, quand ils arrivent à l'hôpital, on n'oriente pas du tout les gens vers le service psy-psychiatrique quand il y a un problème physique.
Moi, même par mes patients que je reçois, bon, je suis médecin, hein, donc j'ai des amis qui sont psy, je sais comment les joindre et puis les mettre en contact.
Vous êtes un médecin militant, vous n'êtes pas le médecin lambda.
Non, je ne suis pas le médecin lambda, je suis un médecin militant depuis très longtemps. Et donc, j'ai réussi à coordonner le côté psy associé au côté pratique.
Eva et Elena Megbo, je vais vous redonner la parole. Hein, docteur Yao, qu'est-ce que vous vouliez ajouter ?
Il y a des membres de la communauté qui se plaignent, notamment de l'accueil dans les centres hospitaliers. Et il faut faire savoir que les psychologues ne sont pas intégrés dans la fonction publique en Côte d'Ivoire. Donc ça aussi, c'est une forte problématique au niveau de la prise en charge des cas de viol. Alors nous, on a bénéficié de fonds de voix essentielle Speak Up Africa pour un projet qu'on a eu pendant 8 mois qui nous a permis de former des médecins et notamment des activistes sur les gestes de premier secours psychologique face à des cas de viol, face à des cas d'avortement clandestin. Et on a formé à peu près 40 médecins au mois de mars sur la convivialité dans les centres de santé. Comment accueillir une victime de viol ? Comment ne pas avoir de jugement ? Pourquoi c'est important de référer à des organisations qui travaillent sur les questions de VBG ? Où est-ce que les plateformes VBG sont mises en place en Côte d'Ivoire ? Parce que tout ça, il n'y a pas ces informations-là. Pour nous, on va dire aujourd'hui, c'est une réalité parce qu'on a touché 40 médecins, mais on espère qu'on pourra amplifier
les actions.
Ça veut
dire qu'il y a encore du travail à faire sur ce plan, docteur Combe. Est-ce qu'il existe, par exemple, des guichets où on va avoir, la dame arrive, elle est victime de violence, elle est, comme on dit ici, survivante. Est-ce qu'elle va avoir la possibilité de voir une assistante sociale, un conseil juridique, éventuellement pour porter plainte, voire même, il y a des structures de santé dans le monde où la police ou le conseil juridique est intégré à l'hôpital, ce qu'on appelle justement cette fameuse approche holistique, voir le gynéco, faire un test de grossesse, faire un test de dépistage d'IST, notamment VIH-SIDA, et aussi voir un psy.
Oui, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il existe ces structures-là où on peut faire une prise en charge globale. Et lorsque la victime arrive, l'apprendre sur le plan médical, s'occuper d'elle sur le plan psychologique. Et on a des sages-femmes et des aides-soignantes qui sont formées pour accueillir ces femmes-là, pour les mettre dans le contexte et puis pour soulager leur morale. On leur pose la question s'il faut aller porter plainte ou bien s'il ne faut pas aller porter plainte. Mais comme on l'a dit, la plupart du temps, ils refusent de porter plainte. Rares sont les cas qui acceptent de porter plainte parce que la famille elle-même va venir intervenir là-dedans.
On va poursuivre notre échange et on va se retrouver pour continuer de parler de santé, de droits des femmes dans Priorité Santé ici à Abidjan. Ce sera juste après Peter Wan avec Kavoudou sur RFI.
Côte d'Ivoire, pays la papa, t'aoué na kousi, et cousin qui va yido. Kavoudou, oh kavoudou, kavoudou, oh midou, kavoudou, oh kavoudou, kavoudou, oh kavoudou. Nous sommes des frères et des sœurs sur toute cette terre. Nous sommes des frères, pourquoi se faire la guerre? Diawe kouzi, diawe kouzi, diawe kouzi, kouzi kiva, diawe kouzi. Yawe kuzi, yawe kuve, kuzi kiva. Dabo son, akanye son, de dobo, asan pero, de danane, ata prison et de Frasco à Wanderoo. Nous sommes les frères et les sœurs sur toute cette terre. Nous sommes des frères, pourquoi se faire la guerre?
Priorité santé à Abidjan. Aujourd'hui, on parle de la santé, des droits des femmes, campagne E4She, lui pour elle, ces garçons, ces hommes solidaires, engagés pour porter les messages, pour faire bouger les choses, toujours avec nos quatre invités, Dr Komiao, gynécologue obstétricien à Abidjan, Diane Gakouba, psychologue formatrice en santé mentale, Eva-Elena Amegbo, coordinatrice du collectif des activistes de Côte d'Ivoire, consultante sur les violences basées sur le genre, et Ernest Adou de la POJAF, une plateforme qui promeut le leadership des femmes. Ernest Adou, des femmes plus visibles, mieux représentées, pourquoi est-ce que c'est important à terme pour leur santé, pour vous qui êtes un jeune homme?
Si nous aujourd'hui nous sommes des E4C, nous n'envisageons pas défendre les femmes éternellement. Il faudrait leur donner les outils nécessaires pour qu'elles puissent elles-mêmes se défendre et donc qu'elles n'attendent pas que quelqu'un vienne leur dire de dénoncer avant de dénoncer. Qu'elles n'attendent pas que quelqu'un vienne leur dire qu'elles ont subi des dégâts certainement corporels et qu'elles doivent mener telle ou telle action avant de le faire. Donc c'est là que nous voulons aboutir par nos actions, que les femmes arrivent elles-mêmes à se prendre en charge, à connaître tous les voies et moyens pour se défendre quand elles sont victimes de violences.
Un véritable changement de mentalité, Eva Elena Megbo. Ça ne se décide pas du jour au lendemain. Il y a des résistances, il y a la tradition. Tout à l'heure, vous parliez justement de ces chefs, de ces leaders qui, des fois, freinent, critiquent, menacent. Comment vous travaillez avec ces leaders communautaires, les responsables religieux, les responsables de quartier?
Moi, j'insiste sur le fait que dans les sensibilisations, on devrait faire prendre conscience du traumatisme. Donc nous, c'est avec cette approche-là qu'on intègre les communautés en travaillant avec des psychologues pour leur faire comprendre que lorsqu'une personne est traumatisée, en fait, c'est à tous les niveaux de sa vie qu'il y a un blocage.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les personnes n'ont pas conscience de ce qu'elles engendrent comme conséquence.
Totalement. Je me permets de le dire, mais en Côte d'Ivoire, on confond traumatisme, dépression, mélancolie. On ne sait pas réellement ce que c'est. Pour cette année, en tout cas, on s'est donné pour mission de pouvoir faire des ateliers de formation avec des agents de police, des magistrats, pour les former sur les questions de traumatisme, de violence psychologique.
Ernest, à d'où vous vouliez réagir?
Nous, on a créé des comités dans certains villages. Et ces comités sont composés de présidents de jeunes, présidents de femmes, des guides religieux, des chefs de village et tout ça. Et ce qu'on a confié à ces responsables, c'est de eux-mêmes pouvoir dénoncer les cas de violence, pouvoir traiter ou aider à traiter les cas qui sont dénoncés ou signalés chez eux, et puis faire des sensibilisations de sorte qu'ils soient comme des récepteurs de dénonciation, des récepteurs de cas de viol. Il y a des petites formations qu'on fait avec eux, avec des boîtes à images. Sur des copies, vous avez des images, par exemple, des conséquences, des impacts de ces violences-là. Et je vous assure que la formation par image atteint tout de suite l'esprit et leur permet de se rendre compte de tout ce qu'ils font subir à ces femmes.
Ils sont choqués?
Ils sont choqués.
On revient aux questions de santé mentale, Diane Gakouba. Vous, quand vous recevez des personnes qui ont été victimes de violences, ce sont quoi vos stratégies, on va dire vos activités de base pour permettre une libération de la parole dans le cadre de ces violences basées sur le genre?
Alors, il y a d'abord l'art-thérapie. Il y a beaucoup de personnes qui aiment s'exprimer à travers la peinture, à travers la musique, à travers la poésie. Et j'ai constaté que quand on leur donne un carnet, un stylo, un feutre, un pinceau, de la peinture, je n'ai même pas besoin de dire grand-chose. Ça, c'est votre moment. Exprimez-vous. Mmh. Et dans ce silence, dans ce cadre de respect, de rapport, d'intimité, la personne commence à s'exprimer. Donc ça, c'est une manière de travailler, de laisser les gens s'exprimer sans les brusquer, parce que c'est toujours très, très difficile pour eux. Et surtout qu'ils ne s'expriment pas le premier jour. Ils vont dire, j'ai des problèmes à la maison, j'ai un problème de communication avec mon mari. Mais c'est après la deuxième, la quatrième, la cinquième séance que la personne finit par dire, en fait, quand j'étais jeune, j'ai été violée, j'ai subi de l'inceste à la maison. Et bien sûr, il faut leur donner le temps. Et bien sûr, on utilise aussi des méthodes de thérapie cognitivo-comportementale pour les aider justement à changer leur manière de penser et de se comporter en fonction de l'événement.
Alors, on va vous retrouver pour un autre échange d'idées avec vos compagnons de E4She et Ernest Adou. Retour sur notre palabre au masculin. Alors, on vous retrouve tous les quatre. On va parler des outils, des moyens concrets pour faire passer les messages, pour changer les pratiques, les comportements, peut-être aussi changer certains regards et on peut l'espérer, les mentalités. On va commencer avec un exemple concret, Eddie Bagot. Un extrait d'un clip de sensibilisation pour les réseaux sociaux. On écoute tout de suite un extrait.
Génial, elle a compris que c'était plaidé. Tu n'as pas honte d'être aussi lâche. Tu te sens intouchable quand tu opprimes les personnes sans défense. Comment tu allais réagir si c'était ta sœur ou ta fille? Je m'adresse aussi à vous qui ne réagissez pas. Car votre silence est assassin et donne la force à ce criminel. Oui, tu es un criminel. De même que nous qui ne réagissons pas quand une personne en situation de détresse subit ses actes de violence. Et vous aussi parlez fort face à ce genre de situation. Car le silence est un comportement assassin. Faites remarquer à tout le monde ce qui se passe. Que vous soyez victime ou témoin.
Silence assassin. Ça a marché comment, ce clip?
En 2022, j'avais remarqué que sur les réseaux sociaux, on ne communiquait pas beaucoup sur les initiatives qui étaient réalisées. Je me suis dit comment essayer de faire quelque chose qui allait être plus attractif et qui allait leur permettre de pouvoir véritablement s'investir dans la question, mais aussi comprendre au fait les enjeux et les réalités. On avait prévu maximum 16 000 vues et au bout d'un mois, on était à 26 000 vues sur les réseaux sociaux. Donc on peut dire qu'on a quand même atteint le quota qu'on avait espéré.
Moi, j'ai même partagé cette vidéo-là. Pour dire il faut pas rester silencieux, il faut en parler. Et ça m'a permis d'entrer en conversation avec eux et je me suis rendu compte que beaucoup ignorent ce qui se passe dans leur entourage parce qu'ils sont pas vigilants.
Par rapport à l'élément qui vient de passer, on a essayé d'adapter ça à la condition des femmes en situation de handicap. Le genre, c'est toutes les composantes de la société. Il y a même des parents qui cachent leurs enfants, des parents qui sont en situation de gêne. Je vais parler de tabou.
Elles sont réactives, les autorités?
Oui, il faut dire qu'il y a un mécanisme en Côte d'Ivoire pour la dénonciation des cas de violences basées sur le genre. Et je parle d'un mécanisme qui fonctionne, n'empêche que les pesanteurs socioculturelles sont un frein à ce mécanisme-là. Quand on a un cas signalé, nous demandons à ce que cette victime-là, cette survivante, soit écoutée par le directeur du centre social. Parfois même, elle refuse. Elle refuse d'aller jusqu'au centre social. Et quand bien que parfois, elle s'y rend, après, quand elle se rend compte que son homme ou son frère pourrait être interpellé par la gendarmerie, elle décide d'arrêter là et de faire un règlement à l'amiable. Donc, on en est conscient. Par contre, à certains endroits, le mécanisme fonctionne bien.
Je voulais revenir sur un aspect que Ange a évoqué tout à l'heure. On ne peut pas défendre une femme contre elle-même. Toutefois, on peut continuer de les sensibiliser. Voilà, en utilisant une sorte de situation de potentiel représailles. De sorte que celle-là puisse sentir qu'une personne qui viole, une personne qui agresse, doit être derrière les barreaux.
Le véritable problème, c'est le manque de confiance envers les autorités qui sont censées au fait prendre en charge ces différentes initiatives-là. Et le problème, c'est qu'il existe en Côte d'Ivoire des bureaux genre au sein des postes de police, des postes de gendarmerie, mais qui ne sont pas fonctionnels. Lorsque vous vous rendez là-bas, la première des choses, on ne vous dirige pas vers ces bureaux gens-là, mais on vous dirige au fait vers le service ordinaire. Souvent devant le service ordinaire, que tu sois un homme, que tu sois une femme, la première des réactions qui va venir, ce sont des moqueries. Si je dénonce, je ne sais pas ce qui va m'arriver après. Il n'y aura pas de représailles de toutes les façons.
Nous sommes dans une société où la femme n'a pas tout le temps droit à la parole. Elle-même, elle se dit que c'est normal que son homme la batte. Moi, je pencherais plus pour des actions de prévention.
Serge Monet, est-ce que vous êtes féministe?
Bon, je ne sais pas si je peux me qualifier de féministe ou si on peut me qualifier de féministe, mais moi, je suis pour l'égalité. L'égalité du genre et puis pour l'égalité de la diversité.
Ange Brou, vous êtes féministe?
Je dirais plutôt que je suis un E4She foncièrement engagé pour les droits de la femme, pour les droits des personnes en situation de vulnérabilité. Pour dire qu'en vrai, comme action, moi je préconise, hein, et là je suis engagé là-dessus, que les femmes soient renforcées en compétences de vie. Parce que pour qu'une femme puisse être éclairée et prendre des décisions, il faut qu'elle sache. Il y a beaucoup à faire en termes d'éducation pour relever le niveau de connaissance de nos filles. Plus elles savent, mieux elles prendront des décisions éclairées.
Eddie Bagot, est-ce que vous êtes un féministe?
Oui, je suis un féministe, un vrai féministe.
Est-ce qu'on peut se moquer de vous pour ça?
Oui, je n'ai pas de soucis, c'est déjà arrivé, même sur la faculté. Je me rappelle que quand j'ai commencé à parler des questions du genre de manière ouverte, on m'avait fait savoir que si jamais tu essaies de choisir un thème sur la question, tu ne vas pas trouver quelqu'un pour t'encadrer, parce que ce ne sont pas des questions sur lesquelles on a un véritable intérêt en Côte d'Ivoire.
Et je ne vais pas vous épargner, docteur Komiao. Tout à l'heure, j'ai dit médecin militant, vous avez dit oui. Si je dis médecin féministe, vous dites quoi?
Oui, on défend les droits des femmes. Oui, on peut dire qu'on est médecin féministe.
Depuis tout à l'heure, on parle de changement, de moteur de changement. Est-ce que vous, en termes d'épidémiologie, hein, vous voyez les effets de cette sensibilisation au sens où il y a moins de violence, où aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a moins de violence?
Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'il faut mettre fin à la violence. C'est vrai que ce n'est pas à 100%, surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe. Les gens commencent à comprendre que la violence est sanctionnée.
Ernest Adou, une dernière question. Quand les filles autour de vous, hein, les amis, les camarades à la fac, dans la famille, vous voient vous engager pour les femmes, comment est-ce qu'elles réagissent? Pour elles-mêmes, finalement, vos sœurs?
Elles sont heureuses d'avoir des personnes qui les soutiennent. D'autres filles nous traitent d'homosexuels. On dit que nous ne sommes plus des garçons comme les autres. Une petite anecdote, moi j'ai fait beaucoup de formations, mais je me disais par exemple que savoir placer une serviette hygiénique, bien savoir calculer les menstrues d'une femme, bon, pour moi c'est pour les femmes. Quand je me suis engagé avec les formations, j'étais une fois à une restitution quand j'enseignais aux jeunes filles comment on le fait. Mais elles étaient émerveillées, elles me disaient « Mais toi, tu as grandi où? Est-ce que c'est ta maman qui t'a appris tout ça ?» Elles retrouvent en ces Ifroshi des personnes vraiment qui sont là pour leur cause et c'est intéressant. Le problème, c'est lorsqu'on se retrouve avec nos amis, les garçons. Eux, par contre, ils pensent que c'est une cause qui est un peu comme une dérive, y compris la jeune génération. Ils ne comprennent pas exactement ce qu'on fait. Mais bon, on essaie de leur expliquer comme il se doit. Je vous l'ai dit, j'ai lavé les assiettes, j'ai lavé mes habits, j'ai fait le ménage, je sais cuisiner. Donc, quand je me retrouve dans une famille où on dit aux garçons, laisse-la faire, laisse-la enlever les assiettes sur la table, laisse-la faire ci. Bon, ça me gêne un peu. Souvent, je suis tenté de me lever, aller aider ces filles-là. Mais bon, c'est des moqueries souvent. C'est non, assieds-toi, tu es un homme. On essaie à tout moment de sensibiliser là où on est, par nos actions, par nos paroles aussi.
Ça veut dire militer aussi, faire du concret tous les jours, tour de table précisément pour aller plus loin, mieux mobiliser, améliorer le quotidien et la santé des filles ici et des femmes en Côte d'Ivoire. Docteur Komiao, serait quoi pour vous, par exemple, une idée pour améliorer concrètement, une seule mesure?
Les femmes, il faut les écouter. Moi, durant toute ma carrière, je n'ai travaillé qu'avec les femmes parce que dans un service de gynéco, j'ai des sages-femmes. J'ai des aides-soignantes, j'ai travaillé qu'avec la femme. J'ai quatre filles. Chez moi, à la maison, il n'y a que des femmes. Je suis le seul garçon. Voilà. Et donc, je suis obligé de comprendre les femmes, de savoir ce qu'elles font.
Obligé?
Oui. Je le fais au quotidien, même lorsqu'il y a une ampoule. Papa, l'ampoule d'ici ne s'allume pas. Ben, je viens, je leur apprends à le faire. Leur serviette hygiénique, c'est leur maman qui s'en occupe. Mais je trouve que c'est merveilleux de travailler avec les femmes. Et donc, moi, pour les femmes, là, il faut les écouter surtout. Et il faut surtout leur donner la possibilité de parler.
Savoir écouter, Diane Gakouba, ce serait quoi pour vous une mesure pour améliorer la santé des femmes?
Je pense que déjà, dans le système éducatif, on devrait inclure dans le curriculum un programme santé mentale, santé des femmes, violence basée sur le genre. Même l'enfant pourra rentrer à la maison et en parler à la maison. Et cela, ça aura un impact positif, que ce soit pour le papa et la maman.
Eva Elena Amegbo, le mot de la fin pour vous?
En tant que champion de la CAN 3 étoiles, vous devez être fier de pouvoir dire dans votre pays, il y a zéro cas de violence. Dans votre pays, il y a zéro cas de décès à la suite d'un avortement. Donc, c'est de vraiment mettre en avant nos Hifoshi dans la communauté pour leur dire, ce sont des hommes comme vous, S'ils le font, vous pouvez le faire aussi. Mais pour nous qui menons des actions de plaidoyer, que ce soit pour avoir plus de centres de transit pour les victimes de violences basées sur le genre, on insiste sur le fait qu'on a besoin de l'intégration des psychologues dans la fonction publique pour avoir une approche véritablement holistique.
Devenir champion de la cause de la lutte contre les violences basées sur le genre. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre participation. Très bonne continuation dans vos différentes actions. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, une émission en partenariat avec le Fonds français Muskoka qui mobilise les expertises des agences des Nations Unies, OMS, ONU Femmes, UNFPA et UNICEF pour renforcer les systèmes de santé. Avant de nous dire tout à fait au revoir, tout de suite, Aïcha Kone avec Samouyala sur RFI. Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Damien Roucou, Richard Rifono à Abidjan, Didier Bleu à Paris. Lundi, nous restons en Côte d'Ivoire. Nous irons à la rencontre de l'équipe de l'unité de soins mère kangourou de l'hôpital de Trècheville. Bébé prématuré, peau à peau, accompagnement des mamans, un cheminement adapté, sécurisé pour reprendre des forces tous ensemble. On se donne rendez-vous lundi à 9h10, heure d'Abidjan et en temps universel.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.